Radio Cité Genève.
Émission Entre les âges.
Bienvenue à l'émission Entre les âges, émission de musique classique et de musique voisine présentée par François-Xavier Poisat sur Radio Cité. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir André Piguet, que vous connaissez déjà sûrement sur Radio Cité, puisqu'il anime deux émissions. C'est une véritable personnalité du terroir aux mille facettes. André Piguet est un enseignant à la retraite, mais on verra que c'est tout sauf une retraite. Il est animateur de radio, il est organisateur de concerts de musique classique, c'est un artiste photographe et bien bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, il vient entre autres nous présenter son exposition de photographie qui a lieu dans la galerie Humanitart au 14 rue du Diorama jusqu'au 8 mai. André Piguet, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter à cette présentation qui est déjà bien fournie ?
Oh, rien, vous avez presque tout dit, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, en somme, les événements dans l'existence arrivent de manière fortuite, ils arrivent de fil en aiguille. Au départ, il n'y a pas de scénario, et voilà, bon, on chemine dans l'existence, on avance en âge, et puis on a l'impression de temps en temps qu'il y a des portes qui s'ouvrent et puis qu'on s'y engouffre. Voilà, donc existence non scénarisée.
Une existence faite de portes qui s'ouvrent, tel un serrurier, peut-être vous avez l'âme d'un serrurier ?
Non, faut croire que je suis curieux, simplement. Et puis, disons que pour moi, tout part des envies. Donc, si j'ai pas d'envie, ben, je peux rester au lit le matin. Mais comme j'ai des envies, je me lève. Et puis, en cours de journée, se présente foule de choses. Voilà, alors, pour le retraité que je suis, c'est grand luxe de pouvoir faire exactement ce qui me plaît.
La spontanéité, est-ce que c'est la racine de la richesse ?
Peut-être, je saurais pas dire. Moi, je dirais plutôt la curiosité.
La curiosité, d'accord. Vous avez fait un choix musical des extraits de cette émission très très classique avec Mozart, Beethoven, Schubert et Ravel. Commençons avec le premier extrait, c'est le rondo pour piano KV-511 sous les doigts de Prisca Benoît. Quelques mots sur cette œuvre ?
Oui, je l'ai choisi parce que pour moi, c'est une œuvre qui représente le Mozart intime. Mozart, c'est un personnage comme d'autres, hein, d'ailleurs, qui est extrêmement caricaturé. C'est-à-dire qu'on voit le musicien galant, on voit le bambin qui épatait les cours européennes, puis les belles marquises toutes admiratives qui le prenaient sur leurs genoux, puis qui lui tapotaient la joue. Et on voit... On a souvent, de Mozart, je dirais, l'impression d'un portrait décoratif. Avec Mozart, je crois que j'ai découvert vraiment le fond de son âme, si j'ose dire, avec la musique pour piano seul. Et l'œuvre que j'ai choisie, elle est, à mon avis, représentative de ses méditations, représentative de sa solitude, et puis d'un certain vague à l'âme. J'ai un ami qui dit « Moi, j'aime bien Mozart parce que c'est gai ». Alors, Mozart sait être gai, mais je pense que le fond de sa personnalité, c'est de la nostalgie.
Eh bien, entrons dans l'intimité de Mozart grâce à son rondo pour piano sous les doigts de Prisca Benoît. On écoute.
Thank you.
Radio Cité Genève.
C'était le rondo pour piano KV 511 de Wolfgang Amadeus Mozart, sous les doigts de Prisca Benoît, un extrait choisi par notre invité d'aujourd'hui, André Piguet. Alors André Piguet, vous venez présenter entre autres votre exposition de photographie qui a lieu dans la galerie Humanitart au 14 rue du Diorama jusqu'au 8 mai. Alors vous êtes un personnage absolument croustillant, tout comme l'annonce de cette exposition que j'ai le plaisir de lire. Alors le titre c'est « Pépites de compost, photographie, exposition jusqu'au 8 mai sous le haut patronage de son excellence coronavirus ». Poète bienvenu, esprit formaté s'abstenir, tenue sans retenue exigée, mesures Covid-19 et extravariants, masque à part, il suffit que vous vous sentiez très mauvais pour que personne ne vous approche, et parfum pétulant proscrit. Alors voilà pour la publicité, voilà pour la forme. Pour le fond, peut-être que je vais vous laisser vous présenter vous-même ces photographies, puisqu'elles sont assez difficiles à définir.
Alors, il y a un instant, je disais que les choses arrivent dans la vie par hasard. C'est des choses qui se présentent et elles peuvent se réaliser simplement si on saisit au vol. Alors, pour la photographie, c'est exactement ça. À savoir que je ne suis pas photographe, pas plus photographe que je ne suis vitrier, par exemple. Et je suis simplement l'heureux propriétaire d'un téléphone portable qui fait d'assez bonnes photos. Je le manie extrêmement mal, c'est-à-dire que j'en connais pas toutes les ressources, mais presque quotidiennement, des personnes me montrent ce que j'aurais pu faire. Alors voilà, je m'instruis. Cette exposition, elle s'est faite, en somme, sans que je l'ai voulu, parce que quand j'ai commencé à faire des photos, c'était par amusement, c'était une espèce d'enfantillage qui avait pour but de montrer que dans la rue, des images issues du hasard peuvent être aussi intéressantes que des œuvres contemporaines. Alors c'était un petit jeu qui consiste à narguer ou peut-être aussi à faire une démonstration. Alors voilà, j'ai amassé des photos au fil du temps, des dizaines, des centaines, jusqu'au moment où j'ai décidé d'éditer un petit bouquin, un petit recueil. Et puis ça a bien marché, ça s'est bien vendu, il y en a presque plus. Et puis, à quelque temps de là, un ami a dit « Ouais, mais tes photos, faut pas les laisser dans l'ombre. Je vais organiser une exposition. » Il a organisé une exposition qui a rencontré un écho, faut le dire, assez modeste, parce qu'elle avait pas lieu dans une vraie galerie. Et puis, il y a quelques personnalités qui sont venues, dont le patron de la galerie Humanitart, qui a saisi l'affaire au vol, qui a dit « mais ça, c'est complètement original, ces photos, on a vu ça nulle part, et Dieu sait si la photographie peut être routinière », alors il m'a demandé si j'étais d'accord d'exposer dans sa galerie. Bon, j'y voyais pas d'inconvénient, j'étais plutôt flatté, alors j'ai donné mon accord.
Alors, il n'y a pas que les photos qui sont originales, il y a aussi le titre des photos qui sont très, très amusantes. Les titres sont absolument délicieux, improbables. J'y vois peut-être un clin d'œil à Eric Satie, qui composait des morceaux qu'il intitulait « Sport et divertissement » ou bien « Embryon desséché ». Est-ce que vous avez quelques exemples des titres que vous donnez à ces photos qui, je le rappelle, ne figurent que des choses absolument hasardeuses ?
Voilà. Alors, les photos, bon, ben, si on va à l'exposition, on en a le recueil, c'est une cinquantaine de titres. Je sais pas, il y a un titre qui dit, par exemple, « Vibrant appel aux mollusques ». Ou bien un autre titre, c'est « Senteur du printemps ». En réalité, c'est un titre qui se rapporte à une image de voiture complètement écrabouillée, calcinée, dans laquelle il y a sans doute eu des morts. Il y a un titre, c'est « La rébellion des amibes ». Un autre titre, extase calviniste. Bon, pour ces titres, je me suis fait un peu forcer la main parce que je voulais simplement que, avec une image complètement incongrue, inattendue et inexplicable, eh bien, le spectateur ait une confrontation. Donc, la peinture, voilà, c'est d'abord dans l'histoire la désignation. On peint, par exemple, un champ de bataille, un portrait, on peint un paysage, on peint un compotier avec des poires, puis on désigne. Ça, c'est incontestablement un compotier avec des poires. Et puis là, c'est des images qui suscitent d'abord l'étonnement. Les gens me disent « qu'est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ?» etc. Et je me garde de leur répondre parce que l'image est censée parler par elle-même. Et voilà pourquoi je me suis fait forcer la main pour accoler des titres. Alors, les titres, finalement, j'étais contre au départ, mais si l'image ouvre un espace poétique, le titre en ouvre un autre. Voilà. Donc après, mon souhait, et j'estime que l'opération est réussie, si d'autres personnes trouvent leur titre et ont commerce dans la durée avec ce que l'on appelle des œuvres. Mais pour moi, c'est pas des œuvres, c'est simplement des images.
Et choisir soi-même son titre devant l'image qu'on regarde, devant votre photographie, est-ce que c'est pas quelque part un test de Rorschach ?
Oui, c'est un peu le test de Rorschach, mais simplement ça procède de l'idée, plus exactement, que dans ce que l'on voit, on projette notre vécu, on vide un peu la poubelle de nos souvenirs, et l'idée sous-jacente, finalement, c'est que c'est le spectateur qui crée l'œuvre. Alors, l'œuvre, elle existe en tant que telle, hein, ça c'est bien certain, mais si je présente une de mes images, par exemple, à la rétine d'un chevreuil, ça lui parlera pas forcément comme ça parle à un humain. Alors, j'ai un acquis de mon quotidien, les spectateurs de mes images ont leur acquis, et à partir de là, eh bien, ils ont tout un échange, toute une aventure, si on peut dire, avec ces images, et c'est ça le but. Donc, le spectateur crée l'œuvre.
Donc, une œuvre d'art interactive. Faisons une courte pause musicale, et ensuite, nous parlerons de musique avec André Piguet, notre invité d'aujourd'hui. Écoutons maintenant le troisième moment musical de Schubert, sous les doigts du pianiste Rudolf Serkin.
Thank you. Radio Cité Genève.
C'était le troisième moment musical de Franz Schubert sous les doigts de Rudolf Serkin, un extrait choisi par André Piguet, ou plutôt Ernesto, qui était votre alias lorsque vous gériez les Amis de l'Orchestre de la Suisse romande, un alias que connaît des centaines, peut-être même des milliers d'anciens jeunes passionnés de musique classique. Votre tâche à l'époque était de tisser des liens entre cet orchestre et les plus jeunes générations. Mais avant de parler de ça, comment est-ce que vous êtes vous-même tombé dans la marmite de la musique classique ?
Alors, c'est une très très bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une prédestination, j'y crois pas. À la maison, il y avait un piano. À l'école, on faisait du solfège, ça m'a plutôt rebuté. Le dimanche, il fallait aller à l'église. Et alors j'ai, je dirais même, encaissé toutes les harmonies baroques. Voilà. Et puis, alors, un jour, j'ai eu une découverte. Je me rappelle, à la maison, on n'avait pas de radio. Et je me rappelle être allé chez mes grands-parents, qui, eux, possédaient une radio. Et c'était un mercredi soir, l'heure de la diffusion des concerts de l'Orchestre de la Suisse romande. Alors là, j'ai été ébahi. Pour moi, c'était un univers totalement incroyable. À l'époque, on n'était pas familier de la radio, donc je me disais... Quel est ce trucage qui fait que cet instrument parle ? Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était caché derrière, je ne sais pas quel subterfuge. Et alors, à partir de là, j'ai subi une attraction. Hein. J'étais un petit peu comme aimanté. Je suis allé au concert et bah, je profite pour casser le lieu commun selon lequel la musique classique, c'est... une chose qui est destinée aux riches, aux privilégiés, etc. À l'époque, je pouvais entrer au concert à la radio, concert de l'Orchestre de la Suisse romande pour 50 centimes. Au Victoria Hall, il y avait des places debout, ce qui serait plus toléré par les services de sécurité maintenant d'ailleurs, pour 2 francs. Et puis, j'étais dans un club, Migros, on peut le dire, sans faire de la publicité, qui faisait des offres de très très haut niveau d'orchestres symphoniques de réputation mondiale auxquelles j'accédais pour 20 centimes. Voilà. Alors, je me suis embarqué comme ça, ça me touchait. Pour moi, la musique, c'est une espèce de patrie, une patrie au-delà des mots. Et puis, alors, après, je suis entré dans la sphère Orchestre de la Suisse romande à partir de 1982, quand un ami qui avait pris la présidence des Amis de l'Orchestre de la Suisse romande m'a demandé si je voulais me joindre à son comité. Alors, de fil en aiguille, j'ai été secrétaire de l'association, j'en étais vice-président, représentant au bureau de gestion, représentant au conseil de fondation, membre de la... commission artistique, etc. Donc, j'ai fait un peu le tour du sujet. Et alors, à un moment donné, ben, j'ai jugé qu'il était opportun de lancer les Amis OSR.
Et donc, c'est cette solide expérience qui vous a probablement permis, après l'aventure des Amis, de participer ou de créer l'agence Crescendo qui organise de nombreux concerts dans la région et principalement pour des jeunes artistes, hein, en réalité, on peut le dire.
Alors, encore une fois, tout s'est fait de fil en aiguille. Bon, j'étais enseignant. À l'époque, j'avais mes petits passe-droits pour entrer gratuitement avec ma classe, avec les classes de l'école au Victoria Hall pour assister aux répétitions générales. Je me rappelle aussi avoir pu décrocher un opéra entier au Grand Théâtre et aussi un concert symphonique entier au Grand Théâtre. Donc... comme enseignant, je me disais, voilà, c'est très bien. Chaque année, il y a environ 10, 15, 20 000 jeunes qui peuvent entrer au Victoria Hall dans le cadre scolaire et puis découvrir cet univers incroyable. Bon, très bien. Et puis alors après, la réflexion qui s'imposait, c'est que pour ceux que cette expérience aurait enthousiasmé, qu'il fallait offrir des prolongements et faire des propositions avantageuses, étant bien entendu que quand on a 12 ans, on ne peut pas sortir de sa poche 2 fois 50 francs pour aller au concert. Voilà. Donc je me suis dit, il faut trouver un moyen de faire une offre permanente à des jeunes. Alors, ce faisant, je n'ai pas fait preuve de créativité, comme on me l'a souvent dit, mais c'était simplement logique. de s'orienter vers un dispositif. Alors j'ai trouvé à ce moment un pacte avec l'Orchestre de la Suisse romande qui permettait à des membres d'une association d'entrer gratuitement au concert, pour autant qu'ils soient membres. Donc si vous voulez, c'était une affaire privée-publique, les gens payaient une cotisation, après quoi la gratuité était offerte. Et puis, alors, ce club a commencé avec 100 membres, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000 et davantage. Et je me suis aperçu que parmi ces jeunes, il y en avait beaucoup qui étudiaient la musique et qui la pratiquaient à un haut niveau, de manière tout à fait admirable. Alors, à partir de là, je me suis dit, tiens, ces jeunes, c'est pas mal si on essaye de les mettre en évidence. Et c'était le début, en 2013, de l'agence Crescendo, qui s'efforce encore de proposer des concerts à des jeunes, qui s'efforce de contacter les meilleurs, et puis surtout d'y intéresser le public, de procurer une reconnaissance de leur talent et de leur travail.
Un souvenir qui m'est très cher grâce à cette agence Crescendo, justement, c'est l'intégrale des quatuors de Beethoven en concert que vous avez organisé avec le Quatuor à Vif comme interprète. C'était au Studio Insermé en 2019, donc une célébration d'anniversaire un petit peu en avance. Et vous avez choisi un mouvement, le quatrième mouvement du sixième quatuor, interprété par le Quatuor Alban Berg. Ce mouvement s'intitule Malinconia, ce qui veut dire mélancolie. On sait à quel point Beethoven est quelqu'un d'important pour vous.
Alors là, on ne m'empêchera pas de glisser un mot sur ce Malinconia. Donc, le sixième quatuor est le dernier de la série de l'opus 18, c'est donc six quatuors. C'est le dernier écrit. Et le dernier mouvement est assez intéressant parce qu'il propose une introduction qui est extrêmement longue, plusieurs minutes, environ trois, qui est intitulée donc « Mélancolie »,« Malinconia ». Alors, on peut imaginer que c'est l'état d'esprit de Beethoven à cette époque. Il vient de Bonn, il est projeté dans une société aristocratique à laquelle il appartient pas véritablement. Et alors, il a ses moments de solitude comme il les avait à Bonn. Et effectivement, au milieu d'une foule extrêmement dense, on peut avoir le sentiment de solitude. De solitude, d'angoisse, de mal-être, enfin tout ce qu'on veut. Et les trois minutes de Malinconia retracent exactement cela. Suite de quoi, alors, le tourbillon de la société mondaine vous emporte et c'est tambour battant, une espèce de mouvement perpétuel. Alors voilà quelle est, en somme, la coupe de ce dernier mouvement du Quatuor numéro 6 de Beethoven.
Alors on se plonge tout de suite dans la mélancolie de Beethoven.
Radio Cité Genève.
C'était le quatrième mouvement Malinconia du Quatuor numéro 6 opus 18 de Beethoven sous les archets du Quatuor Albanberg. André Piguet, vous êtes notre invité aujourd'hui, vous nous présentez votre exposition de photos. Mais parlons de toute autre chose, parlons d'autre chose que pas de photographie, parlons de vin et surtout de terroir. Je sais que vous avez une émission sur le vin qui s'intitule Nectar, ici à Radio Cité. Et est-ce que vous êtes un fervent défenseur des vins locaux, des vins genevois ?
Je suis un fervent défenseur de la proximité, de manière générale. Si je suis un défenseur des vins genevois, c'est notamment parce qu'il y a 40 ans, ils avaient une mauvaise réputation, qui était d'ailleurs passablement méritée. Et puis, depuis lors, il y a eu redressement, il y a eu changement de politique. Il y a eu peut-être une espèce d'idéalisme en la matière qui fait que les producteurs genevois affichent maintenant une qualité tout à fait remarquable. Alors, c'est vrai que le vin, dans le même temps, c'est assez largement toute une comédie sociale avec des prix extravagants, avec un bluff qui fait monter les cours et les cotes, etc. Et les amateurs sont passablement égarés. Ils risquent de tomber dans le snobisme. Alors, l'émission, on pourrait l'intituler « Remettre les pendules à l'heure ». Alors voilà, on juge sur pièce. Pour moi, déguster un vin, c'est avoir confrontation directe avec le contenu du verre, sans passer par les gourous. Et alors, Genève, maintenant, soutient magnifiquement la comparaison avec des crus qui sont infiniment prestigieux.
On l'a vu avec les amis de l'OSR, on l'a vu avec l'agence Crescendo qui invite des artistes locaux. On peut dire que vous êtes un grand défenseur de la localité en général, de tout ce qui est à portée de main. Ça peut être des merveilles visuelles que nous offrent les alentours avec vos photographies ou bien des productions musicales et gustatives. Est-ce que vous êtes un homme parmi ceux qui trouvent toujours quelque chose de merveilleux à portée de main, où qu'il soit, et qui ne cesse de vouloir le partager avec les autres ?
Alors tout à fait, c'est exactement ça. En profondeur, je pense que l'homme est fait pour vivre dans la proximité. Alors maintenant, avec les moyens techniques actuels, avec les avions et tout ce qu'on peut imaginer du genre, eh bien, on a une appréhension relativement planétaire. Et ça me semble complètement aberrant. Ce dont je rêve, je crois que c'est l'échelle du village où les gens se connaissent, où les gens sont complémentaires, où il y a des interactions riches. Et je sais pas, si je suis par exemple sur Facebook, Internet, etc., et que je prétends être connu de l'univers entier, c'est un leurre complet. Donc retrouvons la proximité, retrouvons la vérité du contact, et il y a suffisamment de richesse autour de nous à porter.
Alors restons dans la proximité avec Maurice Ravel, qui est un compositeur français, mais avec des origines helvétiques aussi, hein, je crois même genevoise. Il avait un oncle qui était un peintre à Genève. Et écoutons le quatrième mouvement de son trio, interprété par Jean-Jacques Cantoroff, Jacques Rouvier et Philippe Muller.
Thank you. Radio Cité Genève.
C'était le quatrième mouvement du trio de Ravel, interprété par Jean-Jacques Kantorov, Jacques Rouvier et Philippe Muller, un extrait choisi par André Piguet, notre invité d'aujourd'hui. André Piguet, il me semble qu'un mot est peut-être très important pour vous, c'est celui de la transmission. Vous avez dit que vous étiez enseignant, plus jeune, et vous avez ici à Radio Cité deux émissions de radio sur des thèmes très divers qui sont la musique classique et les vins locaux. On sait aussi que vous êtes un formidable orateur, vous êtes très demandé pour présenter des concerts ou pour donner des conférences. Est-ce que c'est pour vous une vocation, une passion de transmettre, particulièrement aux plus jeunes générations ?
Non, j'aurais jamais cru, mais simplement qu'à un moment, je me suis rendu compte que la transmission, c'était important. La transmission, par exemple, pour moi, c'était celle de la musique à mes élèves quand j'étais instituteur. Je me suis dit, en un raisonnement qui est extrêmement simple, on est là pour donner des richesses aux enfants, pour préparer leur avenir. Et là, il y a beaucoup de choses sublimes. Et dans leur existence, les enfants ne doivent pas passer à côté de ça. Il y a des richesses patrimoniales qui ont été accumulées au fil des siècles. Il y a des richesses présentes aussi tout autour de nous et il ne faut pas passer à côté. Alors bon, j'ai une conception philosophique qui est assez écologisante, qui me dit que l'essentiel de notre existence se passe au plan matériel, bien entendu, parce qu'on a envie, on a besoin de manger du pain, de boire de l'eau, d'avoir des habits, un logement et tout ça. Mais l'essentiel se passe dans notre esprit, dans notre conscience et dans notre boîte noire. Alors, ce que je peux faire de mieux dans mon existence, c'est de mettre des choses précieuses dans ma boîte noire et par conséquent, en faire bénéficier d'autres. Alors, c'est peut-être un petit peu un credo d'enseignant.
On vit une époque assez particulière et on pourrait penser qu'à bien des égards, les restrictions imposées aux jeunes sont assez antagonistes avec l'idée même de jeunesse, avec les besoins qui sont ceux de la jeunesse, hein, le besoin de découvrir, de sortir, de faire des contacts, d'avoir une vie sociale très riche. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux plus jeunes en cette période particulière, même si heureusement ça recommence à s'ouvrir un peu?
J'ai peut-être un peu honte de le dire, mais les confinements et autres restrictions, j'en ai pas souffert le moins du monde. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses intéressantes, il y a tellement de choses proches. Alors peut-être que j'aurais fait tel ou tel voyage bien volontiers, mais dans la proximité, il y a une richesse qui est forcément infinie. Et j'ai des fois un tout petit peu peur pour ma propre existence et en cohérence avec ce que je viens de dire, de passer à côté de certaines choses. Alors je m'aperçois que avec mes 75 ans, maintenant, je suis affligé d'une certaine fringale. Je me dis, je vais encore redécouvrir des peintres, encore redécouvrir des écrivains et encore redécouvrir des musiques. On n'a pas fait le tour. Voilà, donc maintenant, je suis un petit peu dans la précipitation. Donc, encore une fois, on a été bridé à cause de cette fichue épidémie, mais les biens sublimes sont là en surabondance autour de nous.
Donc, vous nous conseillerez de profiter de ces restrictions pour découvrir, redécouvrir des merveilles de la proximité.
Ben oui, disons, pendant le premier confinement, puisqu'on parlait de Beethoven tout à l'heure, j'ai profité, je dis bien profité du premier confinement pour écrire un petit livre sur Beethoven. Parce que j'ai passé maintenant bien 3-4 ans en proximité extraordinaire avec le personnage et j'avais envie, au-delà du cliché hein, qui est consacré par le temps, j'avais envie de savoir qui était en profondeur ce personnage. Donc voilà, le confinement a été mis à profit pour écrire un livre, par exemple.
D'autres exemples, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ?
Ah ben je sais pas, chaque fois que j'ai un moment j'écris, j'aime beaucoup écrire, si la température est propice, s'il y a une terrasse qui reçoit un petit coup de soleil mais pas trop violent, si j'ai un bloc de papier, si j'ai une plume à réservoir, je profite pour écrire, j'aime bien écrire, l'exercice d'écriture est d'une fécondité absolument prodigieuse. Voilà, j'écris qu'une plume à réservoir, donc je me transporte pas avec mon ordinateur et si je pouvais écrire avec un encrier à l'ancienne et une plume d'oie sur un parchemin, ça serait un grand plaisir parce que j'ai l'impression que avec cette limitation, encore une fois, j'y insiste, une limitation, on produirait moins de stupidité.
Merci André Piguet d'être venu dans cette émission nous partager tant de richesses culturelles, mais aussi de simplicité. Je rappelle votre exposition de photographie dans la galerie Humanitart qui a lieu jusqu'au 8 mai au 14 rue du Diorama, une exposition à ne pas manquer, une exposition qui fait plaisir à regarder, qui a aussi sa profondeur. C'était l'émission Entre les âges, présentée par François-Xavier Poisat avec notre invité André Piguet. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous, merci à Olivier Steinmetz pour la production. Le premier extrait, c'était du Mozart, bouclons la boucle, revenons avec Mozart. Et son troisième mouvement pour le concerto pour deux pianos, KV-365, interprété par Christian Zacharias et Marie-Louise Hinrichs. À bientôt sur Radio Cité.
Émission Entre les âges.